je vais vous parler du sacrement de pénitence, un des beaux sacrements que notre Seigneur a inventé pour nous aider à retrouver son amitié si on l'a perdue et à grandir dans cette amitié si nous avons conservé l'état de grâce. Alors, comme on l'a vu, ce sacrement de pénitence donc, est rattaché au péché. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous avons besoin de nous confesser. Et comme on l'a entendu à midi, il est important toujours de nous... cet état de pécheur. Donc, il ne faut pas être obsédé par cette question du péché en ressassant sans cesse le passé. Le passé est passé, ce n'est pas la peine de revenir sur le passé. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Et un moyen de rester vigilant, c'est de nous rappeler que nous sommes faibles. Et que si aujourd'hui nous sommes dans le droit chemin, nous le devons à la miséricorde du bon Dieu. Et puis aussi nous rappeler les séquelles que le péché a laissées en nous. Parce que une fois qu'on est tombé, on est plus fragile. C'est comme un vase qu'on aurait cassé, ensuite on cherche à réparer le vase, eh bien il y a toujours des brèches qui restent. Et c'est un petit peu pareil. Donc plus on est tombé, plus peut-être on peut être pour moi plus fragile. Donc il faut avoir conscience de cette fragilité. Donc il ne faut pas tomber dans le scrupule en ressassant sans cesse le passé. Ça c'est le démon qui nous travaille. Quand on s'est bien confessé, le bon Dieu a oublié nos fautes. Donc si le bon Dieu les a oubliées, c'est pas la peine nous de revivre dans cet état-là. Mais comme Monseigneur le disait très bien à midi, ce qu'il faut, c'est essayer d'acquérir cette compunction, donc ce regret de ne pas faire toujours ce que l'on devrait, et ce regret d'avoir pu offenser le bon Dieu dans le passé. Et si nous avons cet état-là, eh bien je pense que nous serons plus fidèles, on sera moins présomptueux, et donc plus humble, et sans doute aussi plus fidèles au bon Dieu. Alors, avant de commencer à parler du sacrement en lui-même, pour nous consoler toujours, c'est intéressant de voir que le bon Dieu a choisi comme colonne de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul. Là encore aussi, les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Moi, je pense que l'on a peut-être choisi plus facilement Saint-Jean pour être le chef de l'Église que Saint-Pierre. Ben non, c'est Saint-Pierre qui avait renié trois fois son maître, qui a été choisi comme étant la première colonne de l'Église. La deuxième colonne, c'est Saint-Paul. Saint-Paul qui était persécuteur des chrétiens. Donc là aussi, c'est ce choix de Dieu sur des âmes fragiles, faibles, doit toujours nous consoler, nous rappeler que même si on a pu tomber dans de fautes graves, le bon Dieu quand même peut nous aimer. Et même nous confier des missions importantes. On a aussi l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, qui était la grande pécheresse. Le bon Dieu lui a donné la grâce de rester fidèle au pied de la croix, alors que les apôtres ne sont pas restés fidèles. Et même de le voir ressusciter, la première à avoir vu notre Seigneur ressusciter après la Sainte Vierge. Donc là, c'est encore une grande leçon pour nous, leçon de confiance dans la miséricorde. Alors voyons maintenant le sacrement de pénitence, alors si vous voulez bien. Alors on va voir tout d'abord la matière du sacrement de pénitence. Et puis après, on verra les effets de l'absolution. Dans tout sacrement, il y a la matière et la forme. Alors, la matière du sacrement de pénitence, eh bien, c'est d'abord ce sont les péchés que l'on accuse. Donc, ce sont les actes du pénitent. La matière du sacrement de pénitence sont les actes du pénitent. Et les actes du pénitent, c'est l'accusation des fautes, certes, mais c'est d'abord la contrition de nos fautes. Et puis ensuite, alors parmi les actes du pénitent, il y aura, après l'absolution, il y aura la pénitence que le prêtre donne. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les actes du pénitent. Et c'est en cela que réside donc la matière du sacrement de pénitence. Et la forme alors du sacrement de pénitence, eh bien, c'est la formule que le prêtre utilise pour absoudre de nos péchés. C'est donc la formule d'absolution. Si vous prenez le baptême, dans le baptême, la matière du baptême, c'est l'eau. Si vous baptisez avec du vin, ça ne va pas. Le baptême n'est pas valide, il faut que ce soit de l'eau. Donc la matière, c'est l'eau. Et la forme, eh bien, c'est la formule. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il faut aussi, c'est une parenthèse pour le baptême, que l'eau coule en même temps que l'on prononce les paroles. Je dis ça si jamais vous nous aviez à baptiser dans un cas extrême. Je signale d'ailleurs à ce sujet que si vous avez à baptiser, normalement la dernière personne qui doit baptiser, c'est la maman. Étant donné le lien physique qu'il y a déjà entre la maman et l'enfant, donc ça doit être une personne extérieure, si l'on peut, qui doit baptiser l'enfant, donc en cas de danger de mort. Donc si une infirmière est là, c'est l'infirmière qui doit baptiser, non pas la maman. Et non pas la grand-mère non plus. En fait, c'est plus souvent la grand-mère presque que la maman. C'est déjà arrivé ça dans le ministère, que des grand-mères avouent avoir baptisé leurs petits-enfants, mais on ne sait jamais ce qui pouvait arriver après. Mais j'ai juste fait le début du baptême. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai versé l'eau et puis j'ai dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Ben, je suis désolé, c'est pas le début du baptême, c'est le baptême. Il n'y a pas... Donc l'enfant a été baptisé par la grand-mère. Résultat, ben, il n'y avait plus que le complément de baptême à faire. Enfin, disons que dans ces cas-là, on peut peut-être simuler le baptême, c'est délicat quand les parents ne sont pas au courant pour éviter de problèmes de famille. Enfin, c'est... Donc il faut qu'il y ait un danger de mort aussi pour que vous baptisiez donc un enfant. Hein. Ne le faites pas par plaisir pour baptiser un enfant. Donc il faut qu'il y ait quand même un danger de mort. Puis un jour, un confrère qui me dit comme ça qu'il y avait une maman aussi qui avait justement baptisé son enfant par scrupule, parce qu'elle dit, bon, on ne sait jamais, si jamais il lui arrive quoi que ce soit. Alors il demande comment vous avez baptisé, donc il dit, ben, j'ai pris de l'eau, j'ai mis de l'eau sur mon pouce, et puis j'ai dit, je te baptise en mettant l'eau sur le front, comme ça, enfin, le pouce sur le front, en disant, je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Donc là, c'était pas valide, parce que l'eau n'a pas coulé. Ouf. Le prêtre s'était rassuré après. Mais c'est quand même important, vous voyez, de savoir quand même comment on baptise un enfant, parce que ça peut être nécessaire dans mon ministère. Enfin, ça m'est arrivé quelques fois de demander à des laïcs de baptiser des enfants, en particulier dans des cas de maternité. Moi, je pouvais pas accéder à l'hôpital, l'infirmière était tradie, donc c'est elle qui fait des baptêmes. Enfin, bon, c'est des cas tout à fait particuliers. Bien, revenons maintenant au sacrement de pénitence. Les actes du pénitent, donc tout d'abord, première disposition, c'est la contrition. Et c'est le plus important. Le plus important dans la confession, c'est la contrition. Alors il faut d'abord expliquer ce que c'est pour que, bien justement, nos confessions soient bonnes. La contrition, c'est la douleur à l'égard du péché déjà commis. Donc la douleur à l'égard de nos fautes passées. Et cette douleur inclut le ferme propos, c'est-à-dire la résolution de tout faire pour éviter de retomber. C'est ce qu'on dit dans l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, je prends la ferme résolution. Alors, décider de ne pas retomber ne signifie pas qu'on ne retombera pas. Sinon, on n'aurait plus besoin de se reconfesser. Hein. Ce serait trop beau. Mais ça signifie qu'on va faire des efforts pour éviter de retomber. Et là où on a des efforts à faire, c'est surtout dans ce qu'on appelle les occasions prochaines de péché. Les occasions prochaines, c'est ce qui est la cause la plus immédiate de nos fautes. Par exemple, une personne qui entretient une liaison coupable avec une autre, eh bien, il faut essayer de se séparer de cette personne si on ne veut pas pécher. Si on ne se sépare pas, et on se met dans une situation dangereuse. Et donc, on n'a pas vraiment la résolution, finalement, de... On prend la résolution peut-être de ne pas tomber, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour ne plus retomber. Ça, là, je pense au concubinage, par exemple, mais... Ou alors, si une personne vient vous dire « J'ai tué ma belle-mère », vous le regrettez ? Ah non, elle a eu ce qu'elle méritait. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de contrition, vous voyez. Peut-être qu'elle le méritait, mais enfin, quand même. Alors, dans la contrition, on va distinguer deux sortes de contrition. La contrition imparfaite et la contrition parfaite. La contrition imparfaite, c'est la crainte du châtiment. Donc, c'est la personne qui, en réalisant qu'elle a fait une faute grave, se dit « Si je meurs dans cet état, je vais en enfer. » Donc, c'est une crainte qui est liée au châtiment. Alors, ce n'est pas le motif, bien sûr, le plus noble pour revenir vers Dieu, mais c'est parfois... le motif le plus efficace, pour certains au moins un certain temps au départ. On dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Il y a sept dons du Saint-Esprit, le don le plus, qui est au bas de l'échelle, si on peut dire, c'est le don de crainte, et le don le plus élevé, c'est le don de sagesse. On dit que la crainte est le commencement de la sagesse. C'est donc dans la vie spirituelle, la crainte est parfois première, c'est peut-être parce qu'on craint, on a cette crainte qu'on revient vers Dieu. Mais seulement après, si la crainte est première, elle n'est pas, bien sûr, le motif le plus noble. Et alors, plus on avancera dans la sainteté, et plus l'amour, je pense, aura une place plus grande. Mais au début, la crainte a un rôle, certainement. Et on peut dire que c'est là aussi la pédagogie divine à l'égard de l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait plutôt comme étant un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui voulait aussi être craint. Quand on voit comment le bon Dieu est apparu à Moïse, au milieu des éclairs et du tonnerre, cette théophanie se faisait susciter la crainte. Et dans le Nouveau Testament, notre Seigneur, au contraire, a voulu, lui, manifester davantage son amour, donc il a voulu attirer les âmes par l'amour. Donc il ne faut pas opposer les deux, il faut penser que ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité se passe aussi souvent dans l'histoire d'une âme. La crainte est souvent nécessaire pour revenir vers Dieu, mais ensuite elle doit faire appel à des sentiments plus nobles. Mais même quand on est dans le droit chemin, on a besoin toujours de garder ça en réserve pour le cas où la tentation pourrait être plus forte. Mais il y a deux craintes en fait qui sont... Il ne faut pas confondre. Il y a la crainte qui stimule, qui est bonne, et il y a la crainte qui paralyse, qui est mauvaise. Et c'est vrai que les âmes qui sont scrupuleuses, eh bien, quand on leur donne des vérités qui sont des vérités, mais qui sont trop fortes peut-être pour elles, cette crainte qu'on veut susciter en elles, au lieu que ce soit une crainte qui les stimule et les aide à progresser, eh bien, ça les paralyse. Donc, en ce moment-là, il vaut mieux essayer de les attirer plus par l'amour, puisque... cette crainte ne produit pas les fruits qu'on voudrait qu'elle produise. Mais c'est quand même intéressant de voir que le bon Dieu et la Sainte Vierge utilisent aussi ces armes-là. Quand on voit par exemple sur les enfants de Fatima, la Sainte Vierge a montré quand même l'enfer aux trois petits-enfants. Là encore, on se dit que s'il y était des adultes encore, ils ont peut-être été assez forts pour... dans le monde de l'enfer, mais à des petits-enfants, c'est peut-être pas ce qu'on aurait fait. Eh bien, c'est pourtant ce que la Sainte Vierge a fait. Et on voit que la vision de l'enfer a été très puissante pour susciter l'esprit de générosité chez les trois petits-enfants. Et même Sainte Thérèse d'Avila aussi a reconnu que cette vision de l'enfer qu'elle avait eue était l'une des plus grandes grâces de sa vie. Donc vous voyez qu'on On a besoin des deux. Mais c'est vrai qu'on ne va pas au ciel à reculons. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, voilà. Donc, ça, la contrition imparfaite, donc c'est la crainte du châtiment. Et cette contrition imparfaite est suffisante pour recevoir validement l'absolution. Alors, la contrition parfaite, alors maintenant, c'est la tristesse que l'on éprouve à l'idée qu'on a offensé un Dieu si bon. Donc là, le motif, c'est par rapport à Dieu, c'est plus par rapport à nous. On se dit, par mon attitude, j'ai fait de la peine au bon Dieu. Et donc, on regrette ses fautes en raison de la peine qu'on a pu susciter, de la souffrance qu'on a pu susciter en Dieu, en notre Seigneur. Alors, ce qui va quand même nous aider à comprendre la différence qu'il y a entre ces deux contritions, je prends un exemple. Vous imaginez que vous avez un accident de voiture et que vous êtes responsable, en fait, de cet accident. Vous tuez un enfant qui traverse la route. Eh bien, si le regret que vous avez de l'accident, c'est uniquement parce que vous dites « Zut, je vais avoir un retrait de permis et je risque la prison », c'est l'image, si vous voulez, de la contrition imparfaite. C'est uniquement par rapport à vous que vous voyez. Mais la contrition parfaite, qui normalement, j'espère, devrait être la nôtre, c'est la tristesse, bien sûr, d'avoir tué un innocent. Ça, c'est l'image de la contrition parfaite. Et ne croyez pas que la comparaison que je prenne est vraiment exagérée, puisque le péché, c'est bien cela. Le péché a fait souffrir notre Seigneur, qui était l'innocence même. Donc chaque péché a mis à mort notre Seigneur, qui était l'innocence même. Et donc, normalement, chaque faute grave qu'on a pu commettre a été une offense qui a fait souffrir et qui a même fait mourir notre Seigneur. Donc ça, c'est l'image, donc cette image, cette comparaison vous aide à comprendre, je pense, la différence entre les deux contritions. Et doit vous aider, j'espère, à susciter cette contrition parfaite. Alors maintenant, autre chose très importante, la contrition qui doit être la nôtre est une contrition de volonté et non pas de sensibilité. On peut très bien ne pas sentir cette contrition. C'est une contrition de volonté, c'est-à-dire la volonté que l'on a de détester le péché et le désir de détruire le péché et de le réparer. Donc on peut très bien ne pas sentir cette contrition. Et je pense que le fait qu'on se mette à genoux déjà devant le prêtre, c'est bien le signe qu'on regrette. Sinon, si on ne regrettait pas, je ne pense pas qu'on se confesserait. Enfin, j'espère. Enfin, je ne pense pas. Donc ça, c'est surtout pour les âmes scrupuleuses. Donc, rappelez-vous toujours, la contrition n'est pas forcément de l'ordre sensible. On demande, est-ce que vous pleurez vos péchés? Bon, il y a des gens qui sont très sensibles, qui pleurent. Alors là, je fais de larmes. C'est comme ça. D'autres qui ne pleurent pas, même dans le décès de proches, il y a des hommes qui ne pleurent pas, mais c'est pas parce qu'ils pleurent pas à la mort de leurs proches qu'ils ne souffrent pas. La souffrance est une souffrance qui est intérieure et qui peut très bien ne pas se manifester extérieurement. Ça dépend des natures. Alors, ce qui maintenant est intéressant quand même à savoir, c'est que les effets de la contrition parfaite, c'est la remise entière de nos péchés au moment de la contrition. C'est-à-dire, vous commettez une faute grave, à l'instant même, vous avez cette contrition parfaite, votre péché est remis, c'est-à-dire que vous avez retrouvé l'état de grâce. Mais cela ne dispense pas, bien sûr, de la confession. Et au contraire, cette contrition parfaite que vous avez inclut la confession. Et ne vous autorise même pas à communier avant de vous confesser. Parce qu'en fait, on ne sait jamais si on a vraiment eu une contrition parfaite. Mais c'est quand même important de le savoir. Ça signifie que si vous êtes un jour entre la vie et la mort, il n'y a pas de prêtre qui est là, eh bien, il faut essayer d'au moins d'éliciter en soi un acte de contrition parfaite pour retrouver l'amitié de Dieu, si on est en état de péché mortel. Et ça explique cette histoire que vous connaissez peut-être, qu'on raconte dans la vie du curé d'Ars, de cet homme qui s'était suicidé donc à Lyon, il s'était jeté dans le Rhône. Et donc l'épouse de cet homme allait voir le curé d'Ars, et elle était persuadée que son mari était en enfer. Et le curé d'Ars lui dit qu'entre le pont et l'eau, il avait... C'était vraiment limite, hein. Il avait justement fait un acte de contrition, c'est un acte de contrition parfaite qui fait que, eh bien, il est au purgatoire. Enfin, peut-être qu'il est encore, il y est encore toujours, peut-être au purgatoire. Mais enfin, en tout cas, il n'est pas en enfer. Et cela, je dirais, ne pouvait pas se comprendre en dehors de cette explication, puisque une personne qui meurt dans l'acte même de son péché, puisque se suicider, si c'est sur autre chose, et si on le fait parce qu'on est malade et qu'on est déséquilibré, bon. Là, si on n'a pas toute sa tête, c'est différent, mais si une personne qui le fait consciemment et librement, c'est évident que c'est une faute grave, parce que Dieu seul est maître de la vie. Donc si on meurt dans l'acte même de son péché, ben, normalement, on pense qu'on va en enfer. Mais là, vous voyez que ce n'était pas le cas. Et la raison, c'est que la personne avait élicité un acte de contrition parfaite. Donc sachons cela pour chaque fois que nous tombons, indépendamment d'ailleurs de la mort. Si nous tombons dans une faute grave, cherchons toujours à retrouver tout de suite l'amitié du bon Dieu en réalisant le mal que le péché lui a fait. Mais sachons bien que cela ne nous dispense absolument pas de la confession. Alors, ensuite, maintenant, nous arrivons justement à l'aveu des péchés, la confession proprement dite. Notre Seigneur a dit à ses apôtres et par eux aux prêtres, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc le prêtre a le pouvoir de retenir les péchés ou de les absoudre. Donc on parle du tribunal aussi de la pénitence, c'est un jugement que le prêtre porte. Et par conséquent, eh bien, pour pouvoir porter un jugement, eh bien, il faut connaître la cause. Et c'est la raison pour laquelle il faut avouer ses fautes pour pouvoir recevoir l'absolution du prêtre. Le prêtre est juge, il est essentiellement père dans le sacrement de pénitence, mais il est aussi juge. Et en tant que juge, eh bien, il faut qu'il connaisse la cause. Et c'est lui qui juge justement si le pénitent a les dispositions suffisantes pour recevoir l'absolution. Ça arrive, hélas, de temps en temps, que le prêtre refuse l'absolution parce que la personne n'est pas bien disposée. C'est... Par exemple, une personne qui justement vit en concubinage et qui se confesse, si on lui demande de se séparer de son concubin et qu'elle dit non, on ne peut pas lui donner l'absolution. C'est pas... possible parce que il y a la cause prochaine du péché qui est là, et si elle ne se sépare pas de cette cause prochaine, eh bien elle retombera, c'est sûr, et elle montre qu'elle n'a pas donc le regret profond. Donc si on a une attache à une faute grave, eh bien on ne peut pas recevoir le pardon du péché. Il faut être détaché, et le moyen d'être détaché, c'est de manifester qu'on est détaché, c'est de faire ce qu'il faut pour ne pas retomber. Et si une personne se confesse en disant qu'elle va recommencer la fois prochaine, ben c'est pas la peine. C'est pas... La autre chose est que la personne vous dise « Je sais que je suis faible, je sais que je risque de retomber. » Mais si elle fait ce qui dépend d'elle et qu'elle retombe, ça c'est autre chose. Là, le prêtre, bien sûr, peut lui donner l'absolution. Et même si elle retombe tout le temps, souvent. Notre Seigneur a dit qu'il fallait pardonner 70 fois 7 fois, c'est donc qu'il nous pardonne toujours. Donc il faut croire dans cette miséricorde infinie du bon Dieu. Donc notre Seigneur est toujours prêt à nous pardonner, mais seulement il faut quand même faire ce qui dépend de nous. Et aussi il faut bien distinguer, ça c'est très important, vous voyez, la différence qu'il y a entre les péchés de faiblesse et le péché de malice. Le péché de malice, c'est un péché que l'on aime. C'est un péché auquel on est attaché. On n'a aucune envie de faire des efforts pour se corriger de ce péché-là. Ça, c'est le péché de malice. Mais le péché de faiblesse, ensuite, c'est le péché Eh bien, qu'on n'aime pas, on ne voudrait pas pécher. On est détaché du péché, on ne veut pas pécher. Et on retombe, et peut-être qu'on retombe même très souvent. Mais si c'est ce péché, c'est un péché de faiblesse, eh bien, notre Seigneur est bien sûr toujours prêt à nous le pardonner. Parce que nous sommes faibles, hélas. Donc là où il faut faire des efforts, bien sûr, c'est pour se détacher de tout péché de malice, bien sûr. Mais la faiblesse, ben, la personne qui est très impulsive de nature, paf, ça sort plus vite que ses pensées, c'est comme ça. Comment faire? C'est comme ça. Donc notre Seigneur voit bien la différence. Alors si notre Seigneur a institué le sacrement de pénitence, c'est parce que la racine de tout péché, c'est l'orgueil. Et donc comme moyen de racheter, de corriger nos péchés, ben, c'est l'humilité. Et donc cette humilité est manifestée par l'aveu de nos fautes. C'est jamais glorieux d'avouer ses péchés. Et c'est pour pouvoir acquérir cette vertu d'humilité que notre Seigneur nous demande de passer par cette humiliation. Et puis une autre raison, c'est que le péché offense notre Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc il faut se tourner vers notre Seigneur pour pouvoir recevoir son pardon. Et justement, dans le sacrement de pénitence, c'est notre Seigneur qui nous pardonne. Donc là, il faut avoir toujours ce regard de foi. Ça aide beaucoup sur le prêtre. Le prêtre que vous voyez n'est qu'un instrument, c'est notre Seigneur qui absout. Le prêtre, c'est le téléphone, mais c'est au bon Dieu qu'on parle. On ne parle pas au téléphone, on parle au bon Dieu. Et le bon Dieu nous répond à travers le prêtre. Cette image, c'est le père, je crois que c'était le père Eugène qui prenait cette image. Père Eugène de Morgon. Alors pour vous aider encore à avoir ce regard surnaturel sur le prêtre en confession, je vais vous lire un passage de saint Claude de la Colombière. Voici ce qu'il disait pour inviter les fidèles à avoir le courage de se confesser. Je ne m'étonne pas tant de ceux qui craignent la confession pour ne vouloir se corriger de leur péché que de ceux qui l'appréhendent par la crainte de le découvrir. Donc il dit, bon, celui qui ne veut pas se corriger, je comprends qu'il ne se confesse pas, parce qu'il ne veut pas se corriger, donc il se dit, ça ne sert à rien que je me confesse, parce que n'importe comment, je ne veux pas changer. Par contre, il dit qu'il s'étonne davantage de ceux qui n'osent pas approcher du sacrement de confession parce qu'ils ont peur de découvrir leur péché en confession. Preuve que c'est une tentation, c'est qu'on voit cette appréhension dans des gens qui ne sont nullement connus du confesseur et qui n'en doivent jamais être connus. Qu'apprend ce confesseur par cette confession si ce n'est qu'il y a une personne dans la ville qui a fait une faute? Vous ne pouvez faire plus de tort que si vous le disiez à une statue. Donc si on se confesse à quelqu'un qui ne nous connaît pas, n'importe comment, ça ne change pas grand-chose. C'est ce qu'il dit. Enfin, le prêtre apprend qu'une personne a fait un péché, bon... Alors maintenant, si le prêtre vous connaît, voilà ce qu'il dit. Plus le confesseur vous connaît, plus il vous estime, plus il y a de la peine, plus il doit estimer la confiance que vous avez en lui et vous savoir gré de ce que vous l'avez choisi pour lui confier la chose au monde qu'il vous est plus important de tenir cachée. Plus le péché est grave, plus le confesseur vous connaît, plus il y a de mérite, et par conséquent, plus le confesseur doit vous estimer s'il est raisonnable, s'il a des sentiments conformes à ceux de Dieu, des anges, qui voient votre humilité avec admiration, avec joie. Quelle extravagance au confesseur s'il vous condamnait dans son cœur lorsque Dieu vous absout et vous comble de ses grâces. S'il n'est pas chrétien, s'il est fou, il aura ses sentiments. Mais s'il est raisonnable, s'il a la foi, il vous admirera, il louera Dieu, il pleurera de joie, il se confondra lui-même. Peut-être n'avez-vous rien fait de si héroïque dans votre vie que cet aveu de votre péché. Et vous craignez que cela ne vous décrit dans l'esprit d'un homme qui a sujet de s'humilier lui-même en voyant une si grande vertu que loue Dieu effectivement, qui admire la force de sa grâce, qui bénit son aimable providence, qui permet des chutes dans ses élus pour leur donner occasion de s'élever à des vertus non communes, qui pleure de joie et de consolation, tandis que vous rougissez de honte. Mais oubliez tout cela si vous craignez Dieu. Si vous l'aimez, profitez de votre répugnance. Le maître des sentences dit qu'on ne parlera point au jugement dernier des péchés dont on aura fait pénitence. Donc voilà, vous avez le choix. Soit de le confesser à un prêtre, à un homme, ou soit, bah, sinon ce sera au jugement dernier devant tout le monde entier. C'est à vous de choisir. Ouais. Je pense que le choix est vite, mais... Donc vous voyez, ça c'est important parce que toujours le démon qu'on appelle le démon muet, le démon qui cherche toujours à faire en sorte qu'on se taise ou qu'on ne dise pas tout ou qu'on cache certaines choses pour par honte, par fausse honte. Alors que la honte, c'est au moment du péché qu'on doit l'avoir, ce n'est pas au moment de l'accusation. Donc il faut surmonter cette appréhension. Et après, on se sent beaucoup plus léger. Ça va déjà beaucoup mieux. Donc il faut savoir qu'il suffit de cacher une seule faute grave en confession volontairement, je ne dis pas un oubli, hein, cacher volontairement, pour que la confession soit invalide et même sacrilège. Donc le but, c'est que le prêtre, normalement, enfin, comprenne à peu près ce que vous avez voulu lui dire, quoi. Si c'est « Ouf, ça y est, il n'a rien compris, c'est bon. » C'est pas le but de la confession, vous voyez. C'est bon. Je choisissais le confesseur le plus sourd, celui qui est le plus... Je vous conseille pas, parce que il y a des fidèles qui vont rire, parce qu'ils connaissent l'histoire, parce qu'ils étaient présents. Mais nous avions un vieux prêtre qui confessait, qui était sourd justement. Une personne va se confesser à lui et pendant la messe, et il y avait des fidèles qui étaient à côté. Donc, alors il commence à se confesser et le prêtre dit « Comment ?» La personne parle un peu plus fort, donc là il n'y avait que le tiers de la chapelle à avoir entendu. « Comment ?» Alors elle commence encore plus fort, et bien « Comment ?» Ça durait trois fois. Eh ben, je plains la personne quand même. Mais le pire, c'est qu'une personne ensuite est partie se reconfesser au même prêtre après. Celle-là, elle a vraiment eu du courage. Ou alors, elle n'a pas grand-chose à dire. Ce qui est possible. Là, c'est un peu dur, quoi. Donc, vous voyez, les confesseurs sourds, faut quand même... méfiez-vous, quand même. Ça peut être dangereux, quoi. Enfin. C'est comme ça. Alors pour qu'il y ait vraiment péché mortel, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait d'abord matière grave, donc quelque chose de grave. Ensuite une pleine connaissance, donc je sais que c'est grave. Et plein consentement, je le fais quand même. Pleine connaissance, donc les fautes qu'on peut commettre parfois dans le demi-sommeil, par exemple, ne sont pas des fautes, enfin, ne sont pas des péchés mortels. Si on est à demi réveillé, on n'est pas entièrement réveillé, donc on n'est pas totalement responsable. Ou plein consentement, si on agit sous la violence, eh bien, il n'y a pas le consentement, en ce moment-là non plus, et il n'y a pas de péché mortel. Donc il faut qu'il y ait trois choses. C'est grave, je sais que c'est grave, et je le fais quand même. Ensuite, il faut non seulement avouer les fautes graves, mais avouer aussi les circonstances qui changent la nature du péché. Il ne faut pas donner toutes les circonstances du péché, c'est simplement celles qui changent la nature du péché. Alors je vais vous donner un exemple. Et non, quand je parle des circonstances, c'est dans bien sûr quelque chose qui est grave. Hein. Dans ce qui n'est pas grave, il n'y a pas besoin de rajouter les circonstances. Dans quelque chose qui est grave, il faudra ajouter les circonstances. Par exemple, une personne qui dit qu'elle a volé dans un supermarché, ou une personne qui a volé dans une église, eh bien c'est pas pareil, parce que dans une église, si c'est un objet dans une église, il y a un sacrilège en plus. Donc c'est non seulement un vol, mais le vol se double d'un sacrilège. Donc il y a une double malice dans le péché. Ou encore, si elle a volé, j'ai volé avant. Elle a volé un sucre sans demander l'autorisation à maman. Bon, ça c'est pas un péché d'ailleurs. Enfin si, c'est un péché, mais c'est un péché de gourmandise, c'est pas un péché de vol. Ou même j'ai volé 10 francs ou j'ai volé 100 000 francs, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en ce moment-là, on passe de matière légère à matière grave. Donc il est nécessaire aussi d'avouer en ce moment-là si la matière est grave. Voilà. Ou si j'ai commis des fautes contre la pureté, bon, est-ce que c'est en pensée, en parole, en action, seul ou avec d'autres, ça change aussi. Avec des personnes mariées, non mariées, ça change. J'ai donné des coups, ah bon, à ma petite sœur ou à ma mère, c'est quand même pas tout à fait la même chose, vous voyez. Donc, quand c'est, je pense que, enfin, c'est, faut, ne tombez pas dans le scrupule, mais sachez que quand c'est des choses qui changent la nature du péché, donc on doit avouer les circonstances. Mais sinon, ne rentrons pas trop dans les détails. Moins il y a de détails, et mieux c'est, si on peut. Bon, non, ça dépend des personnes. Enfin, comme vous confessez, c'est bien. Mais... Et quand c'est des fautes graves aussi, on doit toujours, normalement, accuser, si possible, le nombre ou la fréquence. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois accidentellement? Parce qu'autre chose est tombée plusieurs fois par jour, autre chose est tombée une fois dans l'année, vous voyez. Et ça, c'est aussi important parce qu'on est souvent surpris par le nombre de fidèles qui ne savent pas vraiment se confesser. Toujours, au moins, enfin, dans... Bon, enfin, c'est comme ça. Mais ensuite, ne rentrez pas dans les détails. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Donc, il faut accuser les fautes graves. Dans les fautes graves, ensuite, ce qui change la nature du péché... Et puis ensuite, quand ce sont des fautes graves, au moins le nombre ou au moins la fréquence. Et c'est important que les fidèles le sachent, parce que normalement, le prêtre doit interroger, mais c'est toujours un peu gênant. C'est gênant pour le prêtre, parfois, d'interroger, parce qu'on ne sait pas trop comment le fidèle va prendre la chose aussi. Ça peut paraître indiscret, alors que c'est simplement c'est la matière du sacrement. Donc... Et puis après, non, ne tombe pas dans le scrupule, sachant que le principal de la confession réside dans la contrition, donc dans le regret de ses péchés. Et puis bon, on essaie de dire ce dont on se rappelle. Après, s'il y a des choses qu'on a oubliées, ce dont on a oublié est pardonné. Vous voyez, toutes les fautes graves même qu'on a fait, qui n'ont pas été confessées, si elles sont oubliées, elles sont pardonnées. Ceci étant, si c'est des fautes graves, normalement, on doit les accuser à la confession suivante, si on s'en souvient. Donc, si on se souvient que bon, il y avait une faute grave qu'on avait oublié de l'accuser. On n'est pas obligé de refaire toute sa confession. Il suffit de dire, ben voilà, j'ai fait une confession générale, puis j'avais oublié que... Donc, je ne sens pas que ce soit une confession générale. À ma dernière confession, j'avais oublié ça. Bon, on le dit, quoi. Mais sans revenir sur sa confession passée. Par contre, c'est vrai que, si, comme je vous ai dit, si on avait caché une seule faute, on est obligé, bien sûr, de... Ben, la confession n'était pas bonne, donc on est obligé, à ce moment-là, de tout reconfesser. Ben, j'espère que c'est clair. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On essaie de donner le maximum d'éléments pour vous aider. Maintenant, si vous êtes troublé, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein, à venir voir le prêtre. Ensuite, en confession, bien sûr, il faut accuser ses péchés, non pas ceux des autres. C'est pas le but. Ceux de son époux, de ses enfants, de belle-mère, etc. Non, non. C'est chacun son tour. Ensuite, il faut s'accuser et non pas s'excuser. Vous voyez, dans la confession, c'est pas le but, quoi. J'ai fait ça, mais je pouvais pas faire autrement. Et alors, vous comprenez. Voilà. C'est tout? Ah oui, c'est tout. Bon, je peux vous donner une bénédiction si vous voulez. Mais c'est pas l'absolution s'il n'y a pas de faute. Pour que l'absolution aussi soit valide, il faut qu'il y ait au moins un péché, vous voyez. S'il n'y a pas de péché, je ne peux pas donner l'absolution. Moi, je peux absoudre du vide. Il faut absoudre des fautes. Donc, voilà. Bon, ceci étant, on peut très bien, si on a des circonstances atténuantes, le dire. Hein, je pense que... Mais si c'est systématique, c'est... Et puis également, c'est vrai, parfois il n'y a pas de faute du tout, mais alors il y a des gens, bon, ça leur soudain change leur conscience, mais voilà, je suis pas allé à la messe dimanche dernier parce que j'avais 42 fièvres. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à confesser? Ah non, je n'ai pas autre chose. Mais là, je suis désolé, mais vous n'avez pas fait de faute parce qu'à 42 fièvres, heureusement que vous n'êtes pas venu à la messe, parce que surtout c'est une maladie contagieuse. Parce que... Donc, non seulement vous n'avez pas fait de faute, mais au contraire, vous avez très bien fait de ne pas aller à la messe. Donc moi, je ne peux pas vous donner la solution. Ah, mais je sentais quand même que ça me faisait du bien. Bon, bah, très bien, ça me fait du bien. Donc normalement, il faut, si vous confessez d'une chose qui... si vous ne pouvez pas faire autrement, il n'y a pas de péché. Donc il n'y a pas de... Bon, enfin. Ensuite, en dehors des fautes graves, bien sûr, il est toujours conseillé de confesser aussi les fautes vénielles. Et ceci pour plusieurs motifs. Pour notre humilité, tout d'abord. Parce que plus nous connaissons nos faiblesses, plus nous les reconnaissons, plus nous nous mettons à notre juste place devant le bon Dieu. Et puis aussi pour nous aider à mieux nous connaître. C'est une expérience, vous voyez, qui le montre. Souvent, les gens qui ne se confessent qu'une fois par an se connaissent moins bien que ceux qui se confessent une fois par mois ou tous les trois semaines. Enfin, je sais pas. Parce que quand on se confesse souvent, eh bien, nécessairement, on dit bah, qu'est-ce qu'on va lui dire la prochaine fois. Donc on fait attention, donc. Et donc on fait un examen de conscience. Tandis qu'ensuite, quand on se confesse pas, ben, on s'examine plus. Et quand on s'examine pas, eh bien, on se connaît pas. Donc, l'un des intérêts des confessions fréquentes, c'est que souvent, ça nous aide à mieux nous connaître. Les gens qui se confessent souvent, le plus souvent, sont les gens qui se connaissent le mieux. Même si c'est hélas, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ça, c'est notre nature humaine qui est ainsi faite. Notre âme a des points faibles, le démon les connaît, nous aussi un petit peu. Et bien, c'est toujours par ces points faibles qu'il rentre, c'est normal. Notre âme est un peu comme une citadelle, il y a des brèches, et bien l'ennemi, pour entrer dans la citadelle, il repère les brèches, et paf, c'est par là qu'il rentre. Il ne va pas chercher à rentrer par là où c'est blindé, c'est évident. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu la même chose qui revienne, mais bon, c'est comme ça. Et puis alors un autre intérêt aussi de confesser les fautes véniels, et bien c'est d'éviter des fautes plus graves. Si on attaque le mal à sa racine, c'est le meilleur moyen de le détruire. Et puis enfin, autre intérêt, c'est également de nous donner une grâce particulière pour combattre les défauts dont on s'accuse. Le bon Dieu donne une grâce particulière, pour une force particulière, pour nous aider à dominer les fautes dont on s'est accusé. Et on peut même parfois en confession, avouer certaines tentations qu'on a pu avoir, tout en sachant distinguer la tentation du péché. Sentir n'est pas consentir, donc une tentation n'est pas un péché. Mais si on est violemment tenté, il peut être bon parfois de découvrir son âme au prêtre. Ça suffit parfois pour que le démon s'en aille. Donc c'est simplement pour soulager sa conscience. Ça peut aussi être bon d'avouer une tentation. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait au moins un péché, comme je l'ai dit, pour que la confession soit valide. Alors pour qu'il y ait au moins un péché, normalement, ce qu'il faut faire, si c'est uniquement des imperfections qu'on confesse, il faut toujours ajouter à la fin, en ce moment-là, si on confesse des imperfections, confesser en ce moment-là, à la fin de la confession, je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises contre telle vertu, par exemple. C'est comme ça, au moins, il y a la matière, quoi. La matière, il y a au moins la référence à un péché. Voilà. Et puis, alors, maintenant, une petite histoire, alors, de confession. Certains la connaissent aussi, mais... Un jour, un petit enfant se confesse, un petit enfant de 6-7 ans, et puis donc il avait son petit papier, comme en général les petits enfants, et il lit bien tout son papier. Après, très candide, il me regarde comme ça avec ses yeux, et puis il dit « Et toi ?» Je croyais que c'était chacun son tour, je dis « Non, non, moi aussi je me confesse, mais pas toi. » Ça distrait un peu, là. Une histoire de confession. Donc, enfin, la pénitence. Après avoir reçu l'absolution du prêtre, il faut faire sa pénitence, la prière que le prêtre donne. La prière ou autre chose, d'ailleurs, enfin, ce que le prêtre vous dit de faire. La lecture. Alors le but de cette pénitence, c'est de réparer nos fautes passées est de diminuer ou de supprimer la peine due à nos péchés. C'est toujours important de se rappeler que l'absolution efface la faute, mais le péché étant un désordre, ce désordre devra être réparé dans ce monde ou dans l'autre, d'une manière ou d'une autre. Alors pour réparer le péché, les actes de charité couvrent en partie nos péchés, ensuite les souffrances aussi que le bon Dieu nous envoie, les circonstances nous envoient, nous permettent aussi de réparer nos péchés. Les sacrifices que l'on fait peuvent aussi nous permettre de réparer les péchés. Puis ensuite, le purgatoire, on n'a pas tout réparé sur la terre, donc le purgatoire finira de réparer nos fautes. Mais donc ça, il faut bien le savoir, c'est que l'absolution efface le péché, mais il reste malgré tout la peine due au péché, qui sera expiée d'une manière ou d'une autre. Soit par la charité, donc façon positive, ou soit par la souffrance, de façon négative. Soit sur la terre en méritant, ou soit dans le purgatoire sans mériter. Et c'est une des raisons pour laquelle donc la pénitence que l'on fait, que le prêtre demande, c'est important de la faire, de bien la faire. Parce que si on la fait pas ou par négligence, eh bien, on n'aura plus à payer de l'autre côté, quoi. Et si on refuse la pénitence, alors que le prêtre dit, là je trouve qu'il exagère, quand même. Eh bien, en ce moment-là, normalement, l'absolution normalement, ne serait même pas valide. Normalement. Normalement, on doit accepter la pénitence qu'on nous donne. Bon, maintenant, il faut espérer que les prêtres donnent des pénitences proportionnées. D'ailleurs, c'est même pas proportionné, c'est jamais proportionné. Mais enfin, des pénitences qui ne sont pas trop lourdes, c'est ce que je voulais dire. Dans les premiers temps de l'Église, on cherchait à donner des pénitences qui étaient souvent proportionnées à la faute. Mais alors, il y avait des pénitences qui duraient des années, parfois c'est même toute la vie. Certains devaient faire telle prière ou tel sacrifice, jeûner je ne sais pas combien de fois par semaine, toute leur vie pour expier certaines fautes. Mais l'Église a changé, c'est la façon d'agir. Faut penser à la miséricorde du bon Dieu, mais c'est vrai quand même qu'il faut penser que le péché reste grave et donc mérite une réparation, mais il faut croire donc toujours à la miséricorde du bon Dieu, bien sûr. Et le prêtre, dans la formule qui suit l'absolution, dit que tout le bien que vous ferez et le mal que vous supporterez servent à la rémission de vos péchés. Donc il faut penser aussi à cela, que donc toutes nos actions dans notre vie peuvent aider à effacer nos fautes, à effacer donc la peine due à nos fautes. Alors les effets de l'absolution, c'est que tout d'abord tous nos péchés sont immédiatement pardonnés, quelle que soit leur gravité. Et on peut même retrouver, après la confession, un degré d'amitié de Dieu plus élevé que celui qu'on avait eu avant d'avoir péché. Ce fut le cas de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, en voyant l'étendue de la miséricorde du bon Dieu sur elle, elle a fait un bond incroyable en avant, si on peut dire, vers la sainteté. Donc ça aussi, ça doit être un encouragement pour nous. Se dire que après nos fautes, on peut acquérir un degré de grâce et donc de gloire au ciel, parce que le degré de grâce sur la terre correspond au degré de gloire qu'on aura au ciel, plus grand que celui qu'on avait avant d'être tombé. Parce que ça nous rend, justement, le fait de tomber, souvent nous rend plus humbles, donc plus vigilants, plus circonspects. On a plus conscience de la miséricorde du bon Dieu, de ce qu'on doit au bon Dieu. Et donc, on est souvent aussi plus généreux. Ensuite, l'absolution aussi, il y a un effet non seulement curatif, mais un effet aussi préventif. Une bonne confession nous détache davantage du péché, et donc nous aide à ne plus retomber. Et là, c'est une parenthèse, ce qui est vrai de la confession est même déjà vrai aussi de la communion. Peut-être qu'on vous en parlera un peu au moment où le prêtre vous parlera de la communion. Mais c'est important de considérer que la communion n'est pas une récompense, mais un remède. Le prêtre le dit avant de communier, que cette communion que je prends me serve de remède et de sauvegarde. De remède par rapport à mes fautes passées, de sauvegarde par rapport à l'avenir. Si la communion était une récompense, eh bien on devrait toujours se sentir indigne. Et c'est vrai qu'on doit se sentir indigne, et c'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs. C'est-à-dire, je ne suis pas digne de vous recevoir. Mais on ajoute, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Donc il faut avoir cette conception de la communion qui nous unit étroitement à notre Seigneur et qui aussi efface en partie nos fautes. Et puis ensuite, alors, l'absolution remet donc toujours la peine éternelle due à nos péchés et remet en partie la peine temporelle due à nos péchés en fonction de notre degré de contrition et de notre désir de changer, de nous améliorer. Et puis enfin, alors, dernier effet, qui n'est pas toujours sensible, ça dépend des personnes, ça dépend également des circonstances, c'est aussi un don de Dieu, la paix de l'âme et la joie intérieure. Là encore, une parenthèse, je dis que c'est la paix de l'âme et la joie intérieure. Bon, il y en a toujours un qui n'est pas content, mais sûr, quand on s'est confessé, c'est le démon. Et donc, il arrive qu'après la confession, il nous trouble en disant, mais peut-être que t'es pas bien confessé, il n'a pas bien compris, et t'as oublié ça, et j'en suis sûr, etc. Donc, après la confession, c'est plus le moment de faire l'examen de conscience. Hein. L'examen de conscience se fait avant, normalement. Donc, une fois que vous êtes confessé, vous tournez la page, et on n'en parle plus. Autre chose, bon après, si quelque chose vous revient comme ça, clac, et que c'est très clair, bon c'est bien, vous confesserez la fois suivante si vous avez oublié quelque chose comme on vous l'a dit. Mais sinon, une fois que vous êtes confessé, vous êtes confessé. C'est plus le moment de refaire son examen de conscience. Donc il faut remercier le bon Dieu. Voilà, donc priez bien la Sainte Vierge pour qu'elle vous aide à bien vous préparer. Bon, pour ceux qui désiraient. Alors, pour ce qui est de la confession, comme je vous ai dit, faites un peu comme selon votre l'inspiration que le bon Dieu vous donnera. Si vous voulez vous confesser depuis la dernière fois seulement, ou si vous êtes très scrupuleux, ou depuis la dernière retraite, ce qui peut être peut-être pas mal, ou même une confession générale pour ceux qui ne l'auraient jamais faite, ou pour des cas particuliers. Mais sinon, moi, je ne suis pas tellement pour le fait de faire des confessions générales. Enfin. Façon trop rire, enfin tous les jours quoi, à la fois pour vous et pour moi. Non, là je dis ça en plaisantant, mais bon, ça dépend des personnes, mais souvent c'est des personnes scrupuleuses qui disent j'ai peut-être pas encore bien dit. Alors en général, ils sont plus troublés après qu'avant. Donc le but d'une confession, normalement, c'est de vous soulager. Donc si la confession vous trouble, confession générale vous trouble, ben, ne vous confessez, faites pas une confession générale, parce que le but de la retraite, c'est pas de vous troubler, c'est de vous apaiser. Voilà.